Imaginons la scène suivante, on passe des décennies, voire des siècles entiers, à assembler le puzzle le plus gigantesque jamais conçu par l'humanité.
Ouais.
Et l'image finale commence enfin à prendre tout son sens, tu vois. Les contours des galaxies sont super nets, les couleurs des étoiles s'accordent parfaitement.
C'est le moment où on se dit qu'on a tout compris.
Voilà, exactement. Sauf que soudain, un détail absolument terrifiant nous saute aux yeux.
Ah.
Les pièces que l'on voit, donc celles que nos télescopes peuvent capter, bah elles ne représentent en réalité que 5% du puzzle total.
C'est fou quand on y pense.
Et les 95% restants sont bien là, ils sont posés sur la table spatio-temporelle, mais ils sont littéralement invisibles et intangibles.
Ouais, et le plus troublant dans tout ça, bah c'est que c'est pas juste une simple métaphore poétique, tu vois.
Non, c'est clair.
C'est vraiment le constat super froid et mathématique de la cosmologie actuelle.
C'est ça, et c'est exactement pour ça que je suis ravie de plonger dans cette nouvelle analyse aujourd'hui. On va décortiquer les notes de conférence du docteur Perry Phillips.
Des notes fascinantes pour le coup.
Vraiment. Parce qu'elles montrent que même si le modèle du Big Bang repose sur des observations incroyablement précises, bah, ce même modèle souffre en fait de failles qui donnent carrément le vertige.
Absolument. En fait, on est à un point où, pour faire tenir l'univers en un seul morceau, bah, la physique fondamentale flirte dangereusement avec la science-fiction.
C'est exactement ce paradoxe qui rend notre plongée dans ces sources si captivantes. L'idée aujourd'hui, c'est de comprendre comment la science essaye de lire un livre dont la majorité des pages sont écrites à l'encre invisible, quoi.
C'est un sacré défi.
Ça oui. Alors, plutôt que de regarder l'univers dans sa globalité tout de suite, posons-nous une question très locale.
D'accord, vas-y.
Si la gravité, c'est cette force implacable qui attire tout, genre un peu comme une pomme qui retombe forcément sur Terre.
Ouais, l'attraction classique.
C'est ça. Pourquoi l'univers tout entier ne s'est-il pas déjà effondré sur lui-même? Ou à l'inverse, pourquoi nos propres galaxies ne se disloquent-elles pas à cause de leur vitesse de rotation?
Eh ben, ce mystère de la rotation, c'est vraiment la première grosse fissure dans notre compréhension.
Comment ça?
En fait, dès les années 1930, t'as l'astronome Fritz Wicki qui observe de vastes amas de galaxies. Il mesure à quelle vitesse ces galaxies virevoltent les unes autour des autres, tu vois.
Ok.
Et là, bah, les mathématiques refusent complètement de coopérer.
C'est-à-dire qu'il y a une erreur de calcul?
Non. Pire, en calculant la masse de toutes les étoiles et de tout le gaz visible, Zwicky réalise qu'il n'y a tout simplement pas assez de force gravitationnelle pour retenir cet amas.
Ah ouais, d'accord.
La gravité, elle est censée agir un peu comme une colle. Et là, sans assez de masse, il n'y a pas assez de colle.
Donc logiquement, tout devrait exploser.
Exactement. Ces amas auraient dû se disperser dans le vide spatial il y a des milliards d'années, en fait.
Sauf qu'ils sont toujours là, sous nos yeux.
Et ouais. Et le problème s'aggrave encore plus quand on regarde à l'intérieur même d'une galaxie individuelle.
Les notes mentionnent Vera Rubin, c'est ça?
C'est ça. Les travaux de l'astronome Vera Rubin sur la galaxie d'Andromède illustrent ça à la perfection. Prenons d'abord notre système solaire pour comparer.
Ok, vas-y.
Mercure orbite hyper vite près du Soleil et Neptune se traîne lentement tout au bout.
Ce qui est logique, vu que l'influence gravitationnelle du Soleil s'affaiblit avec la distance.
Voilà. Donc, on s'attendait très logiquement à ce que les étoiles situées au bord extrême d'une galaxie tournent beaucoup plus lentement que celles près du centre, qui est supermassif.
Sauf que...
J'imagine que c'est pas du tout ce qu'elle a vu.
Pas du tout. Vera Rubin, en observant la périphérie d'Andromède, elle a constaté que la courbe de vitesse ne chutait pas du tout. Les étoiles aux confins de la galaxie tournent à la même vitesse hallucinante que celle du centre.
C'est fou.
Et physiquement, c'est une aberration totale.
Pour que les gens visualisent bien l'aberration, prenons un carrousel géant. Si le moteur s'emballe et que le carrousel tourne à une vitesse vertigineuse.
Ce qui est hyper dangereux. Oui, très vrai. Bah, la force centrifuge va irrémédiablement éjecter les passagers installés sur les chevaux de bois les plus à l'extérieur.
C'est de la physique de base.
Donc, la seule façon pour qu'ils ne s'envolent pas dans le décor, ce serait qu'une ceinture de sécurité parfaitement invisible les plaque fermement contre leur siège.
C'est une métaphore parfaite. Mais n'oublions pas que dans l'espace, la seule ceinture de sécurité disponible, bah, c'est la gravité.
Et la gravité demande de la masse.
Exactement. Et pour avoir de la gravité, il faut de la masse. Donc, si les étoiles périphériques ne sont pas éjectées par la force centrifuge, c'est qu'il existe une masse titanesque qui tire vers l'intérieur.
Et c'est ça, la fameuse matière noire.
Ouais, c'est ce fameux halo de matière noire. Il entoure la galaxie entière. Sauf qu'il ne brille pas. Il n'absorbe aucune lumière, il ne reflète rien.
Il est imperméable à tout, quoi.
C'est ça, il est complètement insensible à l'électromagnétisme.
Attends, là je suis obligée de me faire l'avocat du diable une seconde.
Vas-y, je t'écoute.
On a un problème avec nos équations, et la solution des physiciens, c'est littéralement d'inventer une substance magique indétectable qui compose la majorité de la galaxie.
C'est vrai que dit comme ça?
Mais honnêtement, ne serait-il pas beaucoup plus rationnel de simplement admettre que les lois de la gravité de Newton et d'Einstein, elles sont fausses quand on les applique à des échelles galactiques?
Eh ben, la communauté scientifique a ardemment exploré cette piste, tu sais. Des théories qui modifient les lois de la gravité, ça existe.
Et ça ne marche pas.
Ah, c'est. Voici pourquoi la matière noire l'emporte, en fait. Elle ne résout pas qu'un seul problème. Si l'on ne regardait que la rotation des galaxies, modifier la gravité pourrait largement suffire.
D'accord.
Mais la matière noire, elle explique aussi la dynamique des amas que Zwicky observait. Elle explique la façon dont la lumière des étoiles lointaines est courbée. Et surtout...
Surtout quoi ?
Surtout, elle est indispensable pour comprendre les toutes premières empreintes thermiques de l'univers. C'est vraiment un échafaudage structurel global. C'est pas juste une petite rustine locale sur une équation.
Ce qui soulève d'ailleurs une question assez évidente dans les notes du Dr Phillips. Si cet échafaudage invisible est présent partout aujourd'hui, il a dû laisser une trace colossale lors de la formation de l'univers, non ?
Ah mais complètement.
Y a-t-il un moyen de remonter le temps pour observer cette fondation originelle ?
Oui, et on le fait en observant le fond diffus cosmologique.
C'est quoi exactement ?
C'est l'écho lumineux du Big Bang. Quand on pointe un instrument ultra-sensible comme le télescope d'Atacama vers le ciel, on ne regarde pas le vide noir. On capte en fait un rayonnement micro-ondes fossiles qui baigne tout le cosmos.
D'accord.
Et ce rayonnement, le truc dingue, c'est qu'il n'est pas parfaitement uniforme.
Il y a des irrégularités ?
Voilà. Il présente d'infimes fluctuations de température, des minuscules taches de chaleur et de froid, un peu comme le grain sur une très vieille photographie, tu vois ?
Ah, les statistiques tirées de nos sources soulignent justement un détail fascinant sur ces fameuses taches. La grande majorité d'entre elles mesurent très exactement 1 degré de diamètre dans le ciel.
C'est ça ?
Pourquoi cette taille spécifique d'un degré, c'est une telle mine d'or pour vous les physiciens ?
Parce que ce 1 degré, en fait, ça agit comme une véritable signature acoustique.
Une signature acoustique, ouais, dans l'espace.
Ouais, dans le plasma brûlant de l'univers naissant, la matière et la lumière créaient des ondes de choc, un peu comme des ondes sonores dans l'air.
Ah, je vois.
Et pour que nos modèles mathématiques arrivent à reproduire précisément des taches de cette taille exacte, il faut doser les ingrédients de l'univers avec une précision diaboïque.
Comme une recette de cuisine ultra stricte.
Exactement. Tant de pourcentage de matière ordinaire, tant de matière noire, tant d'énergie sombre. Et la forme de ces taches, elle nous révèle aussi la vitesse à laquelle l'univers s'étend aujourd'hui.
Ce fameux chiffre, c'est la constante de Hubble, c'est bien ça ?
C'est la constante de Hubble, oui.
Et c'est pile là que le modèle heurte un énorme mur de briques.
Ah, ça, c'est le moins qu'on puisse dire.
Tiens, un certain chiffre.
Oui.
Mais quand d'autres astronomes utilisent une méthode complètement différente, genre l'observation d'étoiles supernova proches, ils obtiennent un chiffre différent.
C'est le gros casse-tête actuel.
Les notes parlent d'une différence de 3 sigma. Bon, pour nous, le commun des mortels, 3 sigma, c'est juste du jargon. Ça veut dire quoi en termes simples ?
En physique des particules, ou en cosmologie d'ailleurs, 3 sigma, ça signifie qu'il y a environ une chance sur 740 que cette différence soit une simple anomalie statistique.
Ok, donc c'est très peu probable que ce soit juste une coïncidence.
Très peu. C'est le seuil où l'on arrête de penser à une petite erreur de mesure dans nos instruments pour commencer à réaliser qu'il manque peut-être un rouage fondamental dans notre compréhension de la réalité.
Hein, ouais ?
C'est pour ça que la communauté parle de véritable crise en cosmologie aujourd'hui.
Pourtant, il y a des travaux récents qui tentent de jeter un pont entre ces deux méthodes. Les notes mentionnent notamment l'astronome Wendy Friedman.
Ah oui, Wendy Friedman. Ses travaux sont remarquables.
Au lieu de regarder le fond diffus cosmique ou les supernovas, elle utilise ce qu'on appelle la branche des géantes rouges.
Ouais, une troisième voie en quelque sorte.
C'est ça. En gros, juste avant qu'une étoile géante rouge ne déclenche la fusion de son hélium, elle atteint un pic de luminosité hyper spécifique.
C'est très standardisé comme processus.
Du coup, ça permet de s'en servir comme d'un phare cosmique pour mesurer des distances avec une clarté apparemment inédite. Et ces résultats réduisent l'écart entre les différentes meulures.
C'est vrai, ça resserre l'étau.
D'ailleurs, le chercheur Bradford Benson, qui est cité dans nos sources, fait une remarque assez terre-à-terre là-dessus. Il rappelle que l'écart initial n'était que d'environ 5%.
Et le point de Benson est absolument crucial.
Pourquoi ?
Parce que la physique théorique, elle panique face à ces 5% de différence. Mais prends un peu de recul, tu vois. on parle d'une méthode qui observe une lumière vieille de près de 14 milliards d'années.
Ouais.
Et d'une autre méthode qui mesure des étoiles explosant dans notre voisinage galactique plutôt récent.
Mmh.
Obtenir deux résultats qui s'accordent à 95% en étudiant des phénomènes aussi radicalement distants dans le temps et l'espace...
C'est déjà un miracle en soi.
C'est l'un des plus grands triomphes de l'intellect humain.
C'est un peu comme si, je sais pas, on avait deux géomètres rivaux. L'un essaie d'estimer la surface d'un continent entier en analysant des vieilles images satellites granuleuses.
Ouais, d'accord.
Et l'autre, il arpente physiquement le terrain avec un mètre ruban et des piquets en bois.
L'approche manuelle, quoi.
Voilà. Et à la fin, s'il trouve un résultat qui ne diffère que de 5%, honnêtement, on aurait plutôt envie de sabrer le champagne que de déclarer une crise majeure.
C'est clair. Le triomphe technologique, il est indiscutable.
Mais alors, pourquoi il stresse autant ?
Bah, si la cosmologie s'acharne autant sur ce petit pourcentage discordant, c'est parce que l'horlogerie de l'univers, elle ne tolère littéralement aucune approximation.
Zéro marge d'erreur.
Zéro. D'autant plus que l'étude de ce fameux fond diffus cosmique, celle-là même qui est si précise, a mis en lumière une perfection qui, paradoxalement, détruit totalement la physique classique du Big Bang.
Ah, on plonge ici dans ce que les notes de Félix appellent les paradoxes jumeaux.
Exactement.
Le premier, si j'ai bien suivi, c'est le problème de l'horizon.
C'est ça.
Imaginons qu'on regarde le plus loin possible vers la gauche du ciel. On observe ce rayonnement fossile, situé à environ 14 milliards d'années-lumière.
Ok.
Puis, on se tourne complètement et on regarde tout à droite, à nouveau, à 14 milliards d'années-lumière. Ces deux points extrêmes de l'univers observable sont donc séparés par 28 milliards d'années-lumière au total.
La distance maximale qu'on puisse concevoir, ouais.
Et pourtant, quand on analyse leurs températures respectives, bah, elle est identique, au millième de degré près.
Et ça, c'est physiquement insensé.
Pourquoi c'est si problématique ?
Bah, la limite de vitesse absolue de l'univers, c'est la lumière, on est d'accord.
Oui, rien ne va plus vite.
Or, ces deux régions de l'espace sont tellement éloignées l'une de l'autre qu'elles n'ont jamais eu le temps, depuis le tout début de l'univers, d'échanger de la lumière ou de l'information.
Elles n'ont pas pu se parler, en gros.
Voilà, elles n'ont jamais pu entrer en contact thermique pour équilibrer leur chaleur. Comment deux radiateurs situés aux deux bouts d'un château immense, sans absolument aucun moyen de communication, peuvent-ils avoir été réglés de manière indépendamment sur la même température exacte ?
C'est glaçant de perfection, ouais.
Et le second paradoxe vient enfoncer le clou. C'est le problème de la platitude.
La platitude de l'univers ?
Ouais. Quand on analyse la forme de l'univers à grande échelle, on découvre qu'il est plat, ou de type euclidien pour utiliser le terme exact.
Concrètement, pour ceux qui ont oublié leur cours de géométrie, ça veut dire quoi ?
Ça veut dire que si on tire deux rayons laser parfaitement parallèles dans l'espace, ils ne se croiseront jamais et ils ne s'éloigneront jamais l'un de l'autre.
D'accord.
Mais le truc, c'est que pour que l'univers soit aussi remarquablement plat aujourd'hui, après des milliards d'années d'expansion tumultueuse, il fallait qu'il soit plat avec une précision quasi surnaturelle au tout début.
Et les notes donnent des chiffres là-dessus, et la mathématique derrière, ça donne vraiment le vertige.
Ah oui, c'est effrayant.
Une seconde après le Big Bang, l'univers devait être plat à une part sur 10 à la puissance 15. Et si l'on remonte encore plus loin, à 10 puissance moins 37 secondes, il devait être équilibré à une part sur 10 à la puissance 60.
C'est au-delà de l'imaginable. Une infime, infime déviation et l'univers se serait refermé sur lui-même instantanément ou alors il aurait explosé sans jamais former une seule étoile ?
Les sources utilisent une analogie redoutable pour ça. C'est un peu comme essayer de tirer sur une oie qui se trouve de l'autre côté d'une immense baie.
Ouais.
Plus la cible est loin, plus l'angle du fusil doit être parfait dès la milliseconde où l'on presse la détente, tu vois ?
Exactement. Le moindre micromètre d'écart au départ et tu rates de plusieurs kilomètres à l'arrivée.
Mais là, viser une cible à 1 part sur 10 puissance 60, c'est juste au-delà du concevable. D'ailleurs, les notes citent l'expression humoristique de John Calvin face à ce genre de destin hyper préécrit. Il dit « c'est comme ça que le balai tombe ».
Ouais, fatalité.
En fait, c'est soit une coïncidence monstrueuse, soit l'œuvre d'un ajusteur méticuleux. Mais bon, on le sait, la physique a horreur des miracles inexpliqués, non ?
Aucun physicien sérieux ne pouvait s'endormir le soir en se disant « Oh, c'est une heureuse coïncidence, n'y pensons plus. C'est pas possible. »
Ça devait les rendre fous.
Complètement. Il fallait impérativement découvrir un mécanisme physique, déterministe, capable de lisser l'univers. Et c'est là qu'entre en scène le fameux concept d'inflation cosmique.
Popularisé par Alan Guth, c'est ça ?
Par le physicien Alan Guth dans les années 80. Et l'ironie absolue dans cette histoire, c'est que Guth, à la base, Il ne cherchait même pas à résoudre ces paradoxes jumeaux.
Mais non.
Il cherchait quoi alors?
Il cherchait les fameux monopoles magnétiques.
C'est-à-dire?
Si on casse un aimant classique en deux, on obtient toujours un pôle nord et un pôle sud, à chaque fois.
Oui, ça ne fait que de plus petits aimants.
Sauf que les équations quantiques de l'époque prévoyaient qu'il devrait exister des pôles nord isolés, supermassifs, nés lors du Big Bang. Des particules avec un seul pôle.
Sauf qu'on n'en a jamais vu.
Exactement. L'univers observable en est dramatiquement vide.
Et donc, pour expliquer l'absence de ces monopoles, Goff a eu une idée foudroyante.
C'est ça. Il a imaginé qu'une fraction de seconde après le Big Bang, une minuscule graine d'univers vraiment microscopique d'à peine 10 puissance moins 24 cm a été saisie par un champ de gravité devenu brièvement, mais extrêmement violemment répulsif.
La gravité qui repousse au lieu d'attirer.
C'est fou. Et entre 10 puissance moins 37 et 10 puissance moins 33 secondes, cette graine a gonflé d'un facteur hallucinant de 10 à la puissance 28.
Pour donner une idée à ceux qui nous écoutent, c'est comme si un simple globule rouge dans votre sang donnait un centainement plus grand que tout notre système solaire.
En une fraction de milliseconde.
Ouais.
Mais attends une seconde, je t'arrête tout de suite parce qu'on se retrouve face à un problème béant là.
Je t'écoute.
Inventer un champ de gravité répulsif complètement mystérieux dont on ignore l'origine.
Ok.
Qui agit plus vite que la lumière pendant une fraction de milliseconde. Tout ça juste pour que nos équations retombent sur leurs pattes.
Je vois où tu veux en venir.
Ça ressemble furieusement à un énorme code de triche mathématique qu'on a balancé là pour sauver les meubles, non?
Mais l'accusation de code de triche, elle est tout à fait légitime quand on la découvre pour la première fois.
Ah, tu l'admets?
Bien sûr. Mais tu vois, une théorie devient un véritable pilier scientifique quand elle résout des problèmes majeurs pour lesquels elle n'avait même pas été conçue au départ. Et l'inflation fait exactement ça.
Comment ça?
Reprenons l'analogie d'une fourmi posée sur un ballon de baudruche. Si le ballon est tout petit, la fourmi voit bien que la surface est très courbe.
Logique.
Mais si ce même ballon gonfle soudainement pour atteindre la taille de la planète Terre entière...
Ah, la petite parcelle où se trouve la fourmi lui paraîtra parfaitement plate.
Exactement. Ce qui règle, d'un coup de baguette magique, le problème de la platitude.
Ok, je vois. Et pour l'horizon?
Pire encore pour notre fourmi, le caoutchouc sous ses pattes s'est étiré bien plus vite que la vitesse de la lumière. Avant cette expansion brutale, toute la matière de l'univers était comprimée dans cette graine microscopique. Tout était en contact intime.
Donc la température a eu largement le temps de s'harmoniser.
Parfaitement harmonisée. Puis, l'inflation a tout dispersé instantanément. Et voilà, le problème de l'horizon est réglé.
C'est brillant. Et le plus beau dans tout ça, d'après les notes, c'est ce qui se passe à l'échelle quantique.
Ah oui, l'origine de tout.
Parce qu'on sait que le vide n'est jamais vraiment vide.
Non, jamais.
Des particules fantômes, des fluctuations quantiques qui apparaissent et disparaissent frénétiquement en permanence.
C'est le bouillonnement quantique.
Voilà. Et l'inflation a été tellement soudaine qu'elle a, en gros, attrapé ces minuscules ondes quantiques, microscopiques, au vol, et les a étirées pour les geler à une échelle macroscopique.
C'est exactement ça.
Ce sont ces légères variations de densité qui, des milliards d'années plus tard, ont attiré le gaz pour former les galaxies. C'est ouf, les galaxies sont littéralement des fossiles quantiques gelés.
C'est poétique et c'est surtout un modèle d'une telle élégance que les scientifiques de renom lui accordent aujourd'hui une confiance presque aveugle.
D'ailleurs, les notes du docteur Phillips relatent des paris légendaires à ce sujet.
Ah oui, les paris des physiciens.
T'as l'astronome britannique Emma Martin Rees qui a publiquement déclaré qu'il parierait son propre chien sur la réalité de l'inflation.
Il y tient important à son chien.
Ouais.
Ouais.
Ensuite, t'as André Lind, l'un des pionniers de la théorie, qui a carrément dit qu'il parierait sa propre vie.
Ah ça, c'est radical.
Et la meilleure, c'est le prix Nobel Steven Weinberg. Il a conclu avec beaucoup d'humour qu'il parierait très volontiers le chien de Rees et la vie de Lind.
C'est pour dire à quel point l'idée fait consensus dans le milieu.
C'est clair. Mais c'est précisément ici, je crois, que la physique ouvre une porte d'une ampleur vraiment terrifiante.
La boîte de Pandore.
Voilà. Si le mécanisme de l'inflation a si bien fonctionné sur une graine infinitésimale pour forger notre univers, pourquoi cette graine aurait-elle été la seule?
Bonne question.
Qu'est-ce qui empêcherait d'autres graines de germer exactement selon le même procédé?
Et la réponse est...
Strictement rien.
Rien du tout?
Non. Le principe de médiocrité en science, ça suggère que si un phénomène physique s'est produit une fois, il n'a aucune raison fondamentale d'être unique.
Donc
l'inflation cosmique implique presque naturellement un multivers. une infinité de bulles d'univers qui s'enflent continuellement, séparées par des distances totalement inenfranchissables.
Surtout que selon nos sources, l'hypothèse du multivers n'est pas qu'une simple curiosité de science-fiction. Elle pourrait bien être la seule bouée de sauvetage face au calcul le plus raté de toute l'histoire de la physique.
Ah, tu veux parler du désastre de l'énergie sombre ?
Oui, l'énergie sombre.
Cette fameuse force qui accélère aujourd'hui l'expansion de notre univers.
Ouais.
Sombre, en additionnant l'énergie de toutes ces fluctuations quantiques dans le vide.
Le résultat a été cataclysmique.
Mais vraiment, les équations prédisent une densité d'énergie 10 à la puissance 120 fois supérieure à ce que nos télescopes observent réellement dans l'espace.
C'est, et de très loin, le plus grand décalage jamais enregistré entre une théorie et une observation.
Si l'univers contenait réellement toute cette quantité d'énergie sombre, il se serait passé quoi, Evelyne ?
Eh bien, il aurait été pulvérisé dans une expansion tellement fulgurante avant même que la toute première particule n'ait pu se former. On ne serait pas là pour en parler.
C'est une erreur d'une absurdité indescriptible. C'est littéralement comme si un chimiste pesait une petite pomme sur une balance de laboratoire ultra précise.
Ouais.
Et qu'ensuite, il sortait ses équations quantiques les plus pures pour affirmer très sérieusement que cette pomme doit théoriquement peser plus lourd que l'intégralité de la Voie lactée.
C'est exactement l'échelle du problème. Et face à un gouffre pareil, tu doutes bien que les théoriciens ont dû redoubler d'inventivité.
Les théoriciens des cordes, c'est ça ?
Oui, ils ont avancé une idée stupéfiante. Selon eux, la théorie des cordes autoriserait l'existence de 10 à la puissance 500 types de graines d'univers différentes.
10 à la puissance 500 ?
Chacune ayant ses propres lois physiques et surtout sa propre quantité d'énergie sombre.
Ah, je vois où tu veux en venir. C'est là qu'intervient le principe anthropique.
Exactement. Supposons que pour qu'un univers puisse un jour soutenir la vie, la marge d'erreur sur l'énergie sombre soit extrêmement ténue. Disons juste d'un facteur 1000.
Et ce qui est super étroit.
Eh bien, si tu as 10 à la puissance 500 univers différents dans ce multivers, mathématiquement, tu auras forcément environ 10 à la puissance 380 univers qui tombent pile poil dans la bonne configuration.
Ah ouais, donc il n'y a plus aucun miracle, en fait, à ce que notre univers soit si parfaitement équilibré.
Non, aucun. Nous sommes simplement nés dans l'une des innombrables bulles gagnantes de cette immense loterie cosmique.
D'accord, le raisonnement se tient. Mais il faut qu'on pose la vraie question épistémologique ici.
Vas-y.
Si, par définition même, la lumière de ces autres univers ne nous parviendra jamais, et qu'ils sont à tout jamais inaccessibles à toute mesure ou expérimentation de notre part...
Je sens la question qui fâche.
Sommes-nous encore vraiment en train de faire de la science ou est-ce qu'on a franchi la ligne rouge pour basculer dans la philosophie pure ?
C'est très drôle que tu dises ça parce que c'est le débat le plus brûlant de toute la cosmologie moderne en fait.
Ça m'étonne pas.
Pour certains chercheurs, refuser le multivers sous prétexte qu'on ne le voit pas, c'est comme refuser de croire qu'il y a un intérieur au trou noir. Pour eux, c'est le prolongement naturel et mathématique des équations de l'inflation.
Et pour les autres ?
Pour les autres, c'est en effet une impasse spéculative, totalement invérifiable. On est exactement sur la crête super fine qui sépare la physique tangible de la question vertigineuse des origines.
Et cette fameuse question des origines, justement, je pense qu'il faut qu'on s'y arrête un instant pour terminer parce que c'est vraiment le point culminant de toute cette réflexion.
Absolument.
Et une note de Philips cite les travaux des cosmologistes Alex Vilenkin et Dilia Pourouf. Et ils se penchent sur l'idée d'un univers qui apparaîtrait par tunnel quantique directement à partir du rien.
Le rien absolu, ouais.
Et quand on dit rien, c'est pas le vide spatial. Non, non. C'est pas d'espace, pas de temps, pas de matière. Rien.
Et c'est exactement là que le vrai malaise philosophique naît. Parce que même un processus de création à partir du néant total, s'il se fait par effet tunnel, il doit forcément obéir aux lois de la mécanique quantique.
Oui, il faut bien une règle pour que ça se produise.
Mais si l'espace et le temps n'existent pas encore, comment est-ce que les lois de la physique peuvent-elles exister ?
Ah.
Ça force à admettre que les lois mathématiques devaient, d'une manière ou d'une autre, exister avant l'univers lui-même, pour pouvoir déclencher sa naissance.
C'est complètement vertigineux. D'ailleurs, les notes citent une métaphore très célèbre de l'astronome Robert Jastrow, qui illustre parfaitement cette impasse, je trouve.
Ah oui, l'image de la montagne.
C'est ça. Il décrit le scientifique qui gravit laborieusement la montagne de l'ignorance. Après des siècles d'efforts acharnés, il escalade le tout dernier rocher pour enfin conquérir le sommet des origines cosmiques.
Et là, la surprise.
Voilà. Lorsqu'il s'y hisse enfin, tout essoufflé, il est tranquillement accueilli par une assemblée de théologiens qui sont assis là depuis des siècles.
C'est une image très puissante. Et attention, les auteurs la mentionnent non pas pour valider un dogme religieux spécifique, bien sûr, mais vraiment pour illustrer ce mur conceptuel infranchissable auquel se heurte l'esprit humain.
Le concept d'un néant régi par des lois, c'est insaisissable.
Absolument. En fait, que l'on soit croyant, athée, physicien ou philosophe, l'implication reste la même. La science, elle peut remonter jusqu'à la fraction de seconde ultra précise où l'horloge commence à faire tic-tac.
Mais elle reste totalement muette sur ce qui a construit l'horloge.
Exactement.
Et voilà qui boucle magnifiquement notre analyse de ce gigantesque puzzle cosmique.
Quelle aventure!
C'est le cas de le dire. On est passé de galaxies maintenues par une matière invisible à des multivers inconcevables pour finalement buter sur le mystère ultime.
Le grand mur des origines.
Alors, pour vous qui nous écoutez, on va vous laisser avec ça. Si les lois totalement abstraites de la physique, que ce soit la mécanique quantique, l'inflation ou la géométrie spatiale, si elles préexistaient réellement au temps, à l'espace et à la matière,
ouais.
Où est-ce que ces règles étaient donc codées et surtout, qu'est-ce qui dictait les règles du jeu avant même que la réalité ne commence à exister?
C'est... ça donne le vertige, hein.
Voilà le genre de question qui a largement de quoi donner des insomnies à quiconque s'y penche sérieusement. À bientôt pour une prochaine plongée.